Oui, mais...
Adam Arichon, quand il est arrivé, il avait la Torah en lui, il est à la croix.
Qui
Adam Arichon, quand il est arrivé, il avait la Torah en lui, il est à la croix, etc. Il savait comment faire la Shrita et compagnie. Je veux savoir à partir de quelle naissance, il n'y avait plus ça. On est arrivé, on devait réapprendre. À partir de quand? C'est à cause du péché? Ouais, je pense que c'est à cause du péché, mais est-ce que son fils, déjà, il n'avait plus rien?
Alors, au niveau simple, Adam pratiquait la Torah, la connaissait et la transmise à ses enfants. Alors, chez les enfants, il y avait des bons élèves et des mauvais élèves, comme partout. Et déjà son petit-fils, qui s'appelait Enosh, il a commencé à faire Avodah Zarah. Ça arrive, tu as des très, très grands rabbins, le petit-fils est un voyou. Ça arrive très souvent. C'est le cas. Et il y a eu une transmission de cette Torah de tzaddik en tzaddik. Parce que chaque génération avait quand même quelques tzaddikim qui étaient là. Donc le savoir de Adam Rishon a été transmis. On voit que Noah, Hachem lui a dit, tu prendras des couples des animaux impurs et sept animaux des espèces pures. D'où il sait Noah, c'est quoi un animal pur, un animal impur? Un cheval, en quoi un cheval est plus impur qu'une vache? Donc de là qu'il connaissait la Torah. Et le fils de Noé, Shem, c'était un grand Rosh Yeshiva. Il y a une Yeshiva. Et Shem l'a rencontré Abraham Avinu. Malkitzedek, c'était Shem ben Ever, Shem ben Noach. Le petit-fils de Shem, lui aussi, c'est un grand sage qui s'appelait Ever. Les deux avaient une Yeshiva, la Yeshiva de Shem et Ever, dans laquelle Yaakov Avinu a étudié. Donc il y avait un savoir qui était transmis. Maintenant, il est clair. Si nous, on voyait aujourd'hui Adam, on étudie avec lui, la Torah qu'il étudiait à l'époque, on ne comprenait presque rien. Parce que, bien que c'est la même Torah, elle n'avait pas la même configuration. C'est ça que je m'expliquais très très souvent, que la Torah, ce sont des lumières spirituelles. C'est des parties de la divinité, carrément, c'est la pensée de Dieu. Et dans cette pensée, il y a 613 lois. Maintenant, c'est clair que lorsque ces 613 lumières se trouvent chez Dieu, elles n'ont pas la même configuration que lorsque nous on les a dans un bouquin qui te fait le décompte des mitzvot. Ça n'a strictement rien à voir. La mitzvah de tefillin, c'est marqué qu'Hachem met les tefillin. Est-ce qu'il met des boîtiers en cuir avec un texte dedans sur Shema Israël? Certainement pas. Pourtant, il fait Hachem. Mets les tefillin. Porte les tefillin. Il a montré le dos des tefillin, le nœud des tefillin de derrière à Moshe Rabbeinu. La Gemara dans Brachot dit même qu'est-ce qui est marqué dans les tefillin d'Hachem. Donc, il y a une réalité pareille qui s'appelle tefillin chez Hachem. Alors, les gosses, ils s'imaginent une barbe avec une tête et avec un tefillin sur le... D'accord? Mais c'est des gosses. C'est clair que quand on parle de tefillin de Hachem, on parle d'une réalité spirituelle. Maintenant, nous pouvons amener sur nous la lumière de cette réalité spirituelle en mettant des boîtiers en cuir dans lesquels on écrit le texte d'après les 3000 lois qu'il faut respecter pour que le tefillin soit kasher. Et les mettre comme il se doit, ce qui est déjà une autre paire de manches aussi. Maintenant, Adam Rishon ne mettait pas les tefillin que nous avons, c'est clair. Dans notre tefillin, il y a Shema Israël, Vayem Shamoa, Kadesh, Vehaya, quatre parachiotes qui sont marqués beaucoup plus tard, qui parlent de la sortie d'Égypte, qui parlent de toutes sortes de mitzvot, d'accord. C'est clair que le premier homme ne mettait pas ses tefillin. Et pourtant, c'est clair qu'il mettait des tefillin.
Il a lui-même fabriqué ses tefillin.
Alors, quelle tefillin c'était celle du premier homme? Je ne savais même pas si c'était une boîte en cuir. Certainement pas. Peut-être oui, mais je ne pense pas. La tefillin signifie, vous comprenez bien cette notion. Il y a des lumières spirituelles. Maintenant, quand la Torah a été donnée en 2448 de la création, soit en moins 1200 et quelques, Hachem et Moshe Rabbeinu nous ont donné la clé, c'est-à-dire les axes physiques. Quel acte physique nous devons faire pour amener sur nous, sur notre âme, une certaine lumière spirituelle? Et dès lors, c'est magique, ça marche. Parce que, a priori, il n'y a aucune raison pour laquelle, quand je mets un boîtier en cuir, ici, au biceps ou sur la tête, sur lesquels on a écrit quelques textes, que ça m'amène sur moi une certaine sainteté d'Hachem. Mais si Hachem a décidé que ça fonctionnerait comme ça, ça fonctionne. Maintenant, pourquoi Hachem a décidé comme ça et pas ainsi? Pourquoi mettre ces textes-là qui parlent sur l'Égypte et de ça et pas d'autres? En fonction de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, parce que la Torah nous raconte l'histoire du monde, c'est pas pour rien, c'est pas un bouquin d'histoire, elle nous raconte en fait qu'est-ce qui a amené à ce que la Torah aujourd'hui, elle ait cette configuration. Le déluge a amené ça, la tour de Babel a amené ça, Sodome et Gomorrhe a amené ça, génération d'Enoch, dont je parlais auparavant, le petit-fils de Adam qui commence à faire la voie d'Azara, Aram Israël et Yaakov. Le fait qu'Yaakov a acheté le droit d'aînesse de Esav, Ishmaël, le fait qu'il soit fils de Hagar, toutes ces choses-là ont fait qu'en fin de compte, la Torah va avoir la forme qu'elle a aujourd'hui, la configuration qu'elle a aujourd'hui. C'est-à-dire les 613 façons d'amener l'humeur spirituelle. Mais il se peut tout à fait que si l'histoire avait pris un autre cours, il y aurait eu aussi un certain peuple, avec un certain nom qui serait le peuple phare de l'humanité qui doit amener la spiritualité dans le monde, au moins de 613 mitzvot aussi, pour amener 613 lumières spirituelles, mais peut-être avec d'autres choses, d'autres biais. Pas par le fait de mettre des boîtes noires, peut-être manger des sucettes, c'est ça, tous les matins, il fallait manger des sucettes, je sais pas. Donc c'est clair que Adam, quand il fait les 613 mitzvot, certainement il ne faisait pas comme nous. Mais il faisait 613 mitzvot, c'est clair. Tu comprends un peu ce que je dis? Je donnais juste, avant que tu continues, je donnais un exemple. Un exemple que j'utilise souvent, parce qu'il est très, très simple à comprendre et il explique bien. Il illustre bien ce que je veux dire. Tu montres à un enfant un glaçon, un verre d'eau, et tu fais rentrer dans une salle de bain très humide. Tu te demandes quel est le point commun entre les trois choses. Alors, s'il est cultivé, il saura. Mais s'il est encore jeune, il n'est pas cultivé, il ne saura pas. Il y a un glaçon, il y a de l'eau, il y a de l'humidité. C'est trois choses différentes. Quelqu'un de cultivé dira, non, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, c'est du H2O. Deux molécules d'hydrogène pour une d'oxygène. Qui, lorsque se trouve à l'état dans un grand froid, zéro ou moins, se cristallise en glaçon. Lorsque se trouve une température variant de 0 à 100, est du liquide, et plus que 100, elle devient de la vapeur. Donc c'est la même molécule, mais qui, d'après la configuration dans laquelle elle se situe, change de forme, change
d'état,
je veux dire, d'apparence. La Torah aussi. La Torah, ce sont 613 mitzvot, qui, elles, sont une réalité, une dans la divinité, qui, en fonction du monde tel qu'il est, était et sera, va prendre des configurations, des apparences différentes.
On ne reçoit pas tous le même potentiel qu'Adam. On ne reçoit pas tous ce potentiel-là qu'il avait. Il est arrivé, il savait exactement comment il fallait faire la shita à tel animal. Et aujourd'hui, nous, on doit tout réapprendre.
Potentiel, nous, que Adam.
Oui, voilà.
Adam, il était énorme.
Oui, mais entre Adam jusqu'à nous, il y a eu une descente.
Une
descente de niveau. Pourquoi ? En fait, ma question, c'est pourquoi il y a cette Yechida d'Adorot ? Est-ce que c'est juste à cause
Pourquoi il y a une descente ?
Plus après, les enfants vont payer de faute.
Il y a trois raisons que je peux te donner pour qu'il y ait une baisse des générations. Il y a une baisse de niveau dans les générations. D'abord, celui qui est plus proche de la source. Il y a un message plus clair. Comme téléphone arabe, d'accord, quand tu transmets, il peut y avoir une altération. Alors, on ne dit pas qu'il y a une altération du message, mais il y a une altération de la capacité d'être en contact avec l'origine du message, Hachem.
Chas v'shalom, ça va nous amener à penser qu'Adam il va avoir un beaucoup plus petit mérite que nous tous. Parce que lui, il avait tout en main. Et il a tous les outils pour fabriquer une maison, et nous, on commence avec un ciseau, et on doit fabriquer un ciseau.
Mérite, je ne sais pas qu'il y a plus de mérite.
Il a tout. Il arrive, il sait tout. Il sait tout comment, ça, il sait comment tout fonctionne, il sait tout faire.
Il sait tout, ouais.
Et nous, on arrive, on sait rien, et on doit arriver à être le maximum à son niveau.
Donc, qui a plus de mérite ?
Nous,
il semblerait. Peut-être que lui, peut-être qu'il avait un job beaucoup plus grand que le nôtre. Et il a fait beaucoup plus que nous. Donc, quand on parle de mérite, c'est très dur, parce qu'on ne sait pas. Il faut toujours savoir qui tu es et vers quoi tu dois arriver, dans quelle mesure tu as réussi. Vu qu'on ne sait pas qui sont les personnes, enfin, on sait qu'Adam est beaucoup plus grand que nous. On ne sait pas où il devait arriver, donc c'est très dur pour nous de juger est-ce qu'il était méritant ou pas. Ça, c'est le job d'Hachem, ça nous concerne pas, et ça ne nous intéresse tout à fait pas. Est-ce qu'il est plus méritant que lui ou moins? Nous, notre but, c'est de nous réaliser nous-mêmes. On a un potentiel, on va le réaliser. Point barre. Parce qu'on est plus que lui, moins que lui. Ça ne change rien. Attends, je suis en train d'expliquer maintenant les plusieurs raisons pour lesquelles il y a une baisse des générations. Première raison. Deuxième raison, c'est que lui contenait toutes les âmes. Donc il a une capacité énorme, la plus grande possible imaginable de... Une âme, c'est quoi? Une âme, c'est notre contact avec Hachem. Donc il a un super gros contact. Maintenant, les êtres humains qui vont naître seront que une de ces 600 000 âmes, puis après que des parties d'âmes, parce qu'il y a la notion de réincarnation. Une âme, une personne, le premier va naître, d'accord, le petit-fils de Adam va naître, et lui il reçoit une de ces 600 000 âmes. Ok, grande âme totale, une âme totale. Il doit maintenant réaliser un potentiel. L'âme, c'est un potentiel d'union avec Hachem, potentiel de réalisation de choses spirituelles, nous unifiant avec Hachem. Donc il va faire des mitzvot, vient du mot mitzvah, c'est union, d'accord, tzavta, équipe, union, d'accord, il va faire des mitzvot qui le rapprochent d'Hachem, qui l'unit avec Hachem, mais de temps en temps, il ne va pas faire des mitzvot, il va perdre son temps. Ou pire, il va faire des péchés. La partie réalisée, elle est réalisée. La partie d'âme non réalisée revient dans un autre corps. Maintenant, quel plus grand potentiel? Le premier ou le deuxième? C'est clair, le premier, il avait à 100%. Le deuxième ne reçoit que la partie non réalisée. Alors, si le premier, c'était un tir au flanc, il n'a fait que 2% de son potentiel. Il reste 98% pour le deuxième. Donc, le premier avait 100, le deuxième aura 98%. Si le premier, c'était un super battant, il a fait 98%, le deuxième n'a que 2%.
Non, mais le deuxième, il a permis que l'Aneshama à 100%.
J'ai pas fini l'histoire. Le deuxième, il a 2%. Il a pas fini tout, lui. Le deuxième, lui, il va faire maintenant, il va faire 80% de son 2%. Donc il reste encore un, combien? Un 0,4% du total. Qui vient d'une troisième personne, qui non plus va pas faire la totale. Au bout d'un moment, nous sommes les derniers. Bon, on est vraiment les derniers. On est des millionièmes, des cent millionièmes d'âmes.
C'est-à-dire que son travail était 10 milliards de fois plus difficile.
Oui, oui. Les premières générations, c'était les grosses œuvres. Nous, on est la finition. Très, très, très petit.
Il n'avait rien à faire. Il n'avait juste pas à aller voir, pas se laisser tenter par sa femme.
Non. Il avait un job énorme de réparation.
Il avait 2 heures à attendre avant.
Ah, tu parles avant le péché originel?
Ah oui.
Ouais, avant le péché originel, il y avait. Bon.
C'est qu'il était vivant, Adam
et Attends, je suis en train de lui répondre. Avant le péché originel, il devait attendre jusqu'à l'entrée de Shabbat. Mais c'était une épreuve extrêmement grande qu'il a eue. Très preuve en est qu'il n'a pas tenu, aussi grand qu'il était.
Justement, il a été trop grand. Dieu, il a fait trop grand. Il aurait fait un peu plus petit, il se serait pas senti capable de pouvoir justement bouffer ce yéter. Il aurait même pas été affronté.
Hachem sait ce qu'il fait. Après le péché originel, il a un grand job de réparer, c'est-à-dire de ramasser toutes les parties spirituelles sont tombées très bas. Il fallait faire un job maintenant de les ramener. C'est notre job depuis ce temps-là. À l'époque du don de la Torah, ce job a été fait, et dès qu'il y a le vaudor, de nouveau on est retombé. Et très bientôt, on finit. Baruch Hashem, avec le venu du Messie, et là on va arriver à la situation antécédente du premier homme antécédente au péché originel. Et là, on devra encore faire encore un job d'arriver complètement à s'unir à la divinité. Ça, c'est ce que le Mashiach va nous faire faire, Bezrat Hashem. Donc, c'était deuxième raison. Troisième raison pour laquelle il y a baisse des générations. Plus Hashem se dévoile, plus on est en contact avec lui, plus on a une grande connaissance d'Hashem, une vision claire de la réalité, moins il y aura d'emprise sur nous. Le problème est, c'est que si, quand tu as une très claire vision d'Hachem, tu pèches néanmoins, tu es beaucoup plus coupable que si tu étais inconscient, tu n'avais pas une vision claire d'Hachem. Or, l'humanité pèche. Am Israël pèche. Maintenant, Hachem aime l'humanité, Hachem aime Am Israël. C'est pour cela que pour laisser quelque part, pour fermer l'accusation, ne pas donner un plaidoyer, un argumentaire puissant à l'accusation, qui ferait en sorte que l'humanité soit ratatinée, soit anéantie, il dit « Je vais maintenant me cacher. Je vais cacher mon dévoilement. » Comme ça, quelque part, l'humanité qui fait des péchés est moins coupable. Si je me cache, quelque part, il peut commencer à douter.
Et pas vraiment, il est super accessible aujourd'hui.
Pardon ?
Il est super accessible aujourd'hui.
Attends, on va revenir aujourd'hui. Donc, peu à peu, Hachem commence à se cacher. Et il se cache à cause des péchés. Le fait de se cacher, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait qu'Hachem est moins présent. Il y a une moins grande conscience de lui dans le monde. Donc, etc., le mal a plus d'emprise. Donc, les gens font plus de péchés. Les gens font plus de péchés. L'accusation vient et dit, il faut les anéantir. Hachem dit, non, moi je m'éloigne encore plus. Je m'éloigne encore plus. Comme ça, quelque part, je légitime le fait qu'ils aient fait des péchés. Hachem s'éloigne. Donc, ils vont encore faire plus de péchés. Faire plus de péchés. L'accusation vient. Pour pas qu'il y ait accusation, Hachem s'éloigne encore. Et on est en constante baisse. Tu me dis qu'Hachem est accessible, je te réponds, tu ne sais pas du tout de quoi tu parles.
Il est beau, il est moins visible qu'avant, c'est sûr, mais aujourd'hui...
Il est accessible, mais il est beaucoup, beaucoup, à puissance 1 milliard, moins accessible qu'un temps, par exemple.
Pour pouvoir faire notre définitif.
Pardon ?
Il est super gentil de nous avoir laissé les vaches pour pouvoir nous laisser encore faire
un définitif. Oui, ok, mais aujourd'hui, tu comprends, il y a peu de gens qui se rendent compte de la véracité d'Hachem et de la Torah à l'époque. C'est marqué dans le traité Megillah qu'il y a eu 1 200 000 prophètes dans le peuple d'Israël. Que 48 prophètes et 7 prophétesses ont été mis par écrit parce que leurs prophéties concernaient les générations à venir. Donc ça nous concerne à nous, c'est pour qu'on soit au courant de ce qui va nous arriver ou ce qui nous est déjà arrivé. Mais il y avait néanmoins 1 200 000. C'est quoi un prophète ? C'est quelqu'un qui rencontre. Hachem lui parle. Hachem lui parle. Shmuel, qui est enterré ici à 3 km en face de nous, d'accord ? Il était au Mishkan, au sanctuaire. Et tout à coup, il s'occupait de Eli, qui était le Kohen Gadol, prophète Eli. Oui, il entend que Eli appelle Shmuel. Bon, il va. On va appeler. Non, je ne vais pas appeler. Mais j'entends que vous m'appelez. Non, je ne vais pas appeler. Donc, on va dormir. On va dormir. Non, Shmuel, il se lève. On va appeler. Pourquoi t'as entendu quelqu'un qui t'appelle ? Oui, on m'a appelé déjà 2 fois Shmuel. La prochaine fois qu'on t'appelle, réponds. Oui, je suis ton serviteur et j'écoute. Qu'as-tu à me dire ? Troisième fois, Shmuel dit, je suis ton serviteur, qu'as-tu à me dire ? Je suis Hachem, je suis venu te parler. Donc, tu comprends comment Hachem il vient là, un beau jour, Meir. Meir, si vous travaillez, va travailler. Qui a ça aujourd'hui ? Quoi ? Où ça arrive ? Un type qui dit qu'Hachem lui a parlé, il va à l'asile, tout de suite. D'accord ? Ben, Hachem Mashiach reviendra. C'est marqué qu'alors, les jeunes gens vont prophétiser. Donc, il y aura une connaissance. Il y aura une connaissance très grande d'Hachem. Aujourd'hui, on est dans le creux de la vague. Ça commence un tout petit peu à remonter depuis 20-30 ans avec le moment de la Tchouva. D'accord ? Et les miracles d'Israël.
Il nous a enlevé la Torah déjà. Il nous a déjà privé complètement. On n'avait plus accès à cette Torah. Il nous l'a donné, mais il nous l'a... Il nous
mais c'est l'a... clair, c'est clair. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est millimétrique. C'est la semelle d'un monument énorme. Tu crois qu'avant la galoute, quel était l'essentiel de la Torah de Bnei Israël? C'était les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah. Personne ne s'occupait de ça, très peu. Partir en galoute, alors il fallait une Torah appropriée à la galoute. De chasse. Et quand Machiav reviendra, ok, on va commencer à rentrer dans les profondeurs. Tu vois bien que des jeunes gens qui font toujours bien ici à la Yeshiva, très souvent ils ont une soif de vérité. On va étudier la Gemara. Ben, souvent ça marche, parce que dans la Gemara se trouve cachée la profondeur d'Hachem. Très souvent ils disent, mais je comprends pas, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Je comprends Hachem, je vais pas comprendre maintenant qu'est-ce qui se passe dans un cas de jurisprudence ou un type il a acheté un truc, il sait pas qui s'appartient.
Marc, qui nous dit que le ce qu'on a tué aujourd'hui, c'est peut-être la seule chose qui manque, peut-être. Peut-être qu'avant c'était moins facile pour eux qu'ils allaient directement au saut direct. C'était comme dire Vacher, je vais pour le chasse.
Oui.
Peut-être que la chose qui manque, c'est de pour nous, à nos générations, batailler beaucoup plus sur le Joutrain Laro ou la Gemara, et là on aura terminé petit peu.
C'est clair, qu'Hachem veut qu'on utilise cette Torah aujourd'hui. Le Pshat. Il faut aussi la Kabbalah. Mais il y a un ordre. D'abord le Pshat, après la Kabbalah. Mais quand Machar viendra, il y aura une connaissance d'Hachem tellement grande que c'est certain que la Torah aura un autre. C'est clair que la Torah. C'est même marqué. C'est marqué que les mitzvot vont être annulés. Or, il est impossible. Parce que la Torah ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'elles vont prendre une autre configuration. Déjà dit que les faits qu'aujourd'hui on a trois parties. Il y a l'impureté, il y a le monde profane qui n'est pas impur, et il y a la pureté, la sainteté. Quand Machar vient, il éradique le mal et l'impureté. Bon, c'est un processus. Au bout d'un moment, il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus que deux catégories. Le profane, c'est pas mauvais, mais c'est pas saint, et le saint.
Ils auront encore leur cycle, les femmes.
Et il y a un moment où il n'y aura plus. Tout passera dans la sainteté. Tout sera saint. Alors, je vais déjà raconter que les fêtes, il n'y aura plus de jours de chol, de jours profanes. Dimanche, ce sera Pessah. Lundi, ce sera Rosh Hashanah. Mardi, ce sera Shavuot. Mercredi, ce sera Rosh Chodesh. Jeudi, ce sera Sukkot. Et vendredi, Rosh Hashanah Rabba. Et Shabbat. Alors, c'est clair qu'il n'y aura pas ni ménage Pessah, ni manger la matzah, tout ça. Il y aura autre chose. La lumière. J'ai expliqué hier que le jour Yom Tov, c'était un jour de lumière. C'est la première fois que c'est marqué Tov en Torah, c'est pour dire à propos de la lumière. La lumière qu'il y a à Pessah sera tous les dimanches. Chesed. La lumière qu'il y a à Rosh Hashanah sera tous les lundis. Gvura. Shavuot, c'est Tiferet. Mardi, etc. Comme ça sera en fonction de Elle sera encore Pourim et Yom HaKippourim, qui seront deux fêtes annuelles. Puis un jour on passera aussi encore plus haut. Alors, tout va rester, parce que ce sont 613 lumières spirituelles qui sont dans Hachem lui-même. Ça peut jamais changer. Mais la configuration, elle change. La façon de faire, la façon d'accéder, ça va changer. Les anges étudient la Torah. Hachem étudie la Torah. Vous croyez qu'ils étudient le même Bava Kama que nous? Il y a Bava Kama dans le ciel, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est dans l'aspect Bava Kama que nous avons, c'est une image d'image. C'est pas le vrai terme. Des habits. Regardez-moi. Ma tête reflète qui je suis, c'est clair. J'imagine que dans le monde des âmes, quand on me voit, on voit ma tête aussi. La tête physique n'est qu'un habit de la tête spirituelle. C'est un habit.
Il y a écrit des choses sur les...
Excuse-moi. Maintenant, même au niveau des âmes, il y a plusieurs habits. Comme les poupées russes, d'accord? Poupées russes extérieures, elles ressemblent à celles qui sont à l'intérieur. Mais des habits. Alors nous, aujourd'hui, la Torah qu'on a, c'est l'habit externe qui était nécessaire pour la galoute de la Torah. Il est nécessaire. C'est comme ça qu'Hachem veut qu'on étudie la Torah aujourd'hui. C'est absolument comme ça. Mais il est clair que lorsqu'on va se rapprocher d'Hachem, on n'aura plus besoin de tellement d'habits. On va rentrer plus profondément. Quand tu connais quelqu'un, tu le connais extérieurement, puis après plus intérieurement, encore plus intérieurement, deux personnes qui se connaissent bien, on va dire un homme et une femme qui vivent depuis 50 ans ensemble. Au bout d'un moment, il y a des choses qui passent, pas besoin de dire, ça passe. J'ai mon élève qui est, dont la femme est décédée il y a à peu près un an, d'un cancer. D'accord, ben, il m'a dit à la fin, elle s'est beaucoup très puissamment sanctifiée, elle avait des niveaux extraordinaires d'union avec Hachem. Et ben il m'a dit à la fin on se parlait pas, tout en pensée. Ça me fait normal, hein, c'est pas un grand sadique avec une grande barbe. Un jeune homme de 30 ans, 35 ans, d'accord, qui est ici à l'Eshiva, voilà. Mais il y a un moment où, par la souffrance, par les choses, ça unit beaucoup. On peut être en contact avec quelqu'un autrement que par le visage. Avec Hachem aussi. Aujourd'hui, le visage d'Hachem, c'est Bava Kama, tel que. Toujours le visage d'Hachem, ce sera toujours sa Torah, c'est ça la connaissance. D'accord, la connaissance d'Hachem, c'est connaissance de sa pensée. Aujourd'hui, la pensée d'Hachem, elle a le visage de Bava Kama, tel qu'on l'a aujourd'hui dans un livre. Et j'espère que quand Macha viendra, ça sera quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. C'est clair que ça sera comme ça. Et là aussi, c'est marqué l'époque messianique, il y a un verset qui dit que la connaissance de Dieu va recouvrir le monde comme la mer recouvre la terre. Il y aura partout la connaissance d'Hachem. Le Gaon de Vilna, il dit, mais là aussi, il y a des différents niveaux. Il y a un qui est dans la mer, et puis tu as des profondeurs abyssales, 12 000 mètres, la fosse des Philippines. Tu en as que c'est 10 cm. En fonction de sa préparation maintenant dans l'époque pré-messianique, lui pourra avoir une connaissance d'Hachem plus ou moins grande. Il y aura aussi des niveaux à ce moment-là. D'autres questions à part Meir ? Oui, Meir.
Je vous demandais, est-ce qu'il y a écrit des choses sur la différence des couleurs des yeux chez les hommes ? Parce que je sais qu'on sait pourquoi il y a des noirs, on sait pourquoi, comment c'est arrivé tout ça.
Mais on ne sait pas comment c'est arrivé les noirs,
Non, il a été maudit.
Non, rien à voir. C'est les inventions de Fufana et sa bande.
C'est pas le fils
de
noir qui
a
été maudit.
Tu vois,
en fonction des climats et des différences.
Voilà. C'est pas ce qu'il dit lui.
Ah, mais quoi, il a été maudit. C'était quoi la punition alors du fils de noir qui a vu son père ?
Noir, il avait 4 enfants. 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Ham, dans la Teva, dans l'arche de Noé, interdiction d'avoir des relations. 2 ont transgressé, le chien et Ham. Ham a été puni qu'il est devenu noir.
Ah voilà.
Attends.
Ah, il y avait déjà des noirs avant Ham ?
Non.
Ses enfants n'étaient pas noirs, c'est ça ?
Même s'ils étaient noirs avant Ham, ils sont tous morts dans le déluge, donc ça n'a rien. D'accord ? Attends, Ham est devenu noir. Enfin, il y a eu des enfants, il y a eu 4 enfants.
Il est devenu noir tout de suite, que s'il a dormi, il s'est réveillé noir.
Tout de suite, quand il dormait, il est devenu noir.
Non, mais dès qu'il est sorti de la chambre de son père, il est devenu noir.
Quelque chose de la chambre de son père.
Je ne sais pas comment c'est passé.
Il a une relation avec sa femme.
Avec sa femme ?
Oui.
Ah, moi j'ai entendu s'il a vu son père nu.
Je te dis, tu es en train de confondre 3 histoires.
Ah, c'est un autre fils de.
Non, c'est lui aussi.
C'est lui qui a fait avec sa femme et en plus il a vu son père.
Il a une relation avec sa femme dans l'arche de Noé. Alors, il était interdit d'avoir une relation pendant toute l'année du. Lui, il n'en pouvait plus, il a une relation avec sa femme. T'en peux plus, tu seras tout noir. D'accord ?
La femme, elle était punie aussi, ou elle s'est fait violer, elle n'était pas.
Non, la femme, elle est toujours consentante, c'est pas de sa faute. Elle doit obéir à son mari. C'est lui le gros méchant. D'accord ? Alors, il est devenu tout noir. Maintenant, il y a eu 4 enfants. Un de ces enfants s'appelait Couch. Comment on dit noir en hébreu ? Couchi. De là, on déduit Fufana et sa bande que. Alors, deuxième histoire maintenant. Ça, c'est Couchi, donc c'est le père des noirs. Maintenant, Ham. Il a vu son père, Noé est sorti de l'arche de Noé, et il a planté une vigne. Il a eu du bon vin, il a bu, il s'est saoulé. Je comprends, il a vécu un déluge, c'est terrible, dépression nerveuse, type il voit Twin Towers, il voit le tsunami, il y a de quoi, il se fait soigner par un psy, d'accord. Il voit qu'il n'y a plus de monde, il n'y a plus que lui tout seul, c'est pas facile. Bon, il s'est saoulé le pauvre, ok. Je ne sais pas l'herbe, vous connaissez que le vin. Et Ham, son fils, le voit tout nu. Il est tombé dans la tente, et la robe, c'est la djellaba, s'est relevée. Deux versions. Une version, il a coupé les parties, se disant, déjà, Adam, il y avait deux enfants, Caïn et Ève, un tué l'autre parce que il était jaloux de lui. Nous, on a déjà trois enfants, mon père va faire encore un quatrième enfant, ça ira pas. Donc il l'a coupé. Autre version, il l'a sodomisé. Noir s'est réveillé de son vin et s'est rendu compte de ce que lui a fait son fils. Il l'a maudit. Il a dit, tu m'empêches d'avoir un quatrième enfant qui s'occupera de moi, je maudis ton quatrième enfant. Il s'appelait Knan. Et je maudis qu'il sera esclave de ses frères. Fufana et sa bande ont dit, vu que Ham était noir, et son fils Kouch était noir aussi, c'est-à-dire que la descendance de Ham, elle est noire, et maintenant Noé, il a maudit Knan, un des enfants de Ham, qui serait esclave, pour que la Torah, elle est pour les...
Là, il n'a rien fait, c'est son père qui a fait, et c'est lui qui prend.
C'est vrai.
Oui, c'est pas très juste, il a fait
c'est vrai.
Autre chose.
C'est vrai. Laisse-moi terminer le raisonnement de Fufana et sa bande. Donc, étant donné que Ham était maudit d'être esclave de ses frères, et qu'il est noir, de là on voit une preuve comme quoi la Torah est pour l'esclavagisme des noirs. Manque de peau pour Fufana et sa bande, ils ne savent pas lire. Fufana et sa bande doivent mieux lire la Bible. Parce qu'il avait quatre fils, Ham. Kouch, on en a parlé. Pout, encore un autre que j'ai oublié son nom, et Knan. Maintenant, de ces enfants-là, Kouch était noir. Knan, qui était maudit, n'était pas noir. Tu me diras, mais si le père Ham, il est noir, ben l'enfant Knan aussi, il est noir. Faut dire non. Faut dire que Ham, il a été maudit d'être noir, mais c'est une pigmentation noire. Mais dans les gènes, il n'était pas noir. Parce que son enfant Kouch, il était noir, peut-être parce qu'il était allé habiter après dans les pays du Sud, il est devenu noir plus tard, et après on l'a appelé Kouchi, noir ainsi. Mais c'est clair que Knan n'était pas noir. Parce que de Knan sont sortis sept peuples, qui étaient des habitants qui étaient en terre d'Israël, qui sont le Knaani, le Chiti, le Yevoussi, le Girgashi, le Prisi, le Emori. Or, si on prend tous les vestiges archéologiques de la population cananéenne qu'il y avait ici avant la conquête de Josué, ils n'étaient pas noirs. Les amulettes, les formes, les statues, ils n'étaient pas noirs. Ils étaient blancs. Donc, Canaan qui était maudit d'être esclave, ce sont des blancs. Et Kouch n'a pas été maudit. Voilà, ça c'est l'histoire. Baruch Adonai, Amen.